BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag. Erwan Maurice.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Happy Boulot, l'émission qui veut vous rendre plus heureux au travail. Au sommaire aujourd'hui, on va commencer dans notre entretien des RH à parler de feedback, de la manière dont les retours des managers permettent de conserver les talents avec Julie Perra, la DRH d'Aramis Auto, avec nous dans un instant. Notre sujet du jour, la santé mentale au travail. Comment en prendre soin? On en parle avec Alexandre Dana, président fondateur de Live Mentor. Nicolas Leperc, docteur en management et responsable d'Ignition Programme. Et puis Eric Albert, psychiatre, fondateur du cabinet YouSide. Et puis si vous pouviez choisir votre salaire après 3 ans d'ancienneté dans votre entreprise, ce serait pas mal, non? J'imagine que ça ferait plaisir à plus d'une personne. Et bien c'est ce que propose Charles de Fréminville, le DRH de Lucas, éditeur de logiciels RH. Vous découvrirez ça en fin d'émission. On espère que ce programme vous plaît. Ça commence tout de suite.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH.
Un entretien qui nous mène dans l'achat et la vente de voitures avec vous, Julie Perrard, bienvenue.
Merci.
Vous êtes bonjour, la DRH d'Aramis Auto, solution pour acheter, vendre des voitures neuves d'occasion en ligne. Aramis Auto, en deux chiffres, c'est 700 salariés et toujours 250 recrutements par an. C'est beaucoup, hein. C'est un secteur où on connaît des difficultés, mais malgré tout, vous continuez à recruter de nouveaux profils.
Oui. On continue à recruter de nouveaux profils parce que on a un marché de l'automobile qui est en profonde mutation. Et comme vous le savez, hein, depuis plusieurs mois, les prix des véhicules neufs augmentent et on a des clients qui se tournent de plus en plus vers le véhicule d'occasion.
Et l'occasion a beaucoup augmenté aussi.
Et l'occasion a augmenté.
Ouais.
Mais ça reste la meilleure affaire sur le marché en ce moment. Et chez Aramis, comment on propose cette meilleure affaire à nos clients? Eh bien, en ayant un vrai savoir-faire sur le reconditionnement des véhicules. Et en fait, on a ouvert l'année dernière, il y a quelques mois, le deuxième site de reconditionnement en Île-de-France. Et donc, on a beaucoup recruté. Et on a beaucoup recruté des profils pénuriques. Le reconditionnement, c'est des profils de mécaniciens, carrossiers, experts auto. Voilà, on a ouvert un site de un peu plus de 100 collaborateurs. Donc, et on continue à recruter puisqu'on développe ce site pour répondre à la demande.
Vous êtes un peu le back market de l'automobile. De la même manière qu'on renvoie nos vieux téléphones, ils sont reconditionnés pour être ensuite revendus, quasi neufs, hein, c'est quand même l'objectif. Vous faites pareil, vous, avec l'automobile?
Exactement, on fait pareil. Avec vraiment, notre objectif, c'est de faciliter la vie de nos clients. Et donc leur proposer vraiment des services pour les aider à acheter, financer, reprendre leur véhicule.
Vous arrivez à trouver les profils que vous recherchez en ce moment? Vous parlez des mécaniciens, par exemple. Est-ce qu'il y a des pénuries de profils dans votre industrie?
Oui, il y a des pénuries de profils, évidemment, sur ces profils-là, sur les profils de la tech, puisqu'on est une plateforme web. Mais chez Aramis, on a un modèle et une culture et des atouts pour recruter les collaborateurs, et on arrive à recruter ces profils-là.
Oui. Comment?
Comment? Écoutez, on a plusieurs éléments. On a les recrutements internes qui font qu'on a beaucoup de passerelles. On fait 150 mobilités par an chez Aramis. Hein, dans une entreprise de 750 collaborateurs, c'est beaucoup. Donc, on fait évoluer nos collaborateurs.
De l'évolution interne?
De l'évolution interne. Je vous en reparlerai. On a une démarche d'apprentissage. Nos collaborateurs sont dans une démarche d'apprentissage continue et
Mais
de développement.
Parlons-en maintenant. Vous faites quoi? Vous faites de la formation aussi en interne pour permettre justement ces évolutions de carrière?
Oui. Alors on forme en interne, on forme au métier justement du reconditionnement, on forme au métier de la vente et on forme surtout nos collaborateurs à apprendre à se poser les bonnes questions pour être dans un apprentissage continu. Donc évidemment qu'on on a des collaborateurs qui ont une appétence commerciale quand on entre dans un métier commercial, mais ensuite on apprend son métier chez Aramis. On a un dispositif de coach et puis de coach interne, et on a des managers qui accompagnent au quotidien les collaborateurs.
On parlait d'une industrie en plein essor parce que l'automobile avec l'électrique, avec les pénuries de matières premières, les semi-conducteurs pendant de nombreux mois, On s'est beaucoup tourné vers l'occasion. Vous en avez profité. Maintenant, c'est plus compliqué parce que aussi l'occasion est devenue plus chère. Est-ce que ça implique chez vous des basculements de la stratégie RH ou pas spécialement? Enfin, même quand on a peu de visibilité, est-ce que vous dites on continue sur cette lancée de recrutement, de formation, d'évolution des profils, ou est-ce que on réduit la voilure temporairement?
Écoutez, nous, on a on est positionné sur ce créneau de la vente de véhicules d'occasion qu'on a des croissances fortes sur ce marché-là depuis plusieurs années, et on continue. Donc on continue à recruter et on continue dans cette dynamique-là.
Ouais. Il faut réussir à conserver les talents, hein, c'est essentiel parce que c'est difficile de trouver des nouveaux talents. On l'a dit, c'est pénurique. Mais il faut garder ceux qui sont chez vous, parce qu'ils peuvent aussi être tentés d'aller ailleurs. Ça passe par quoi? On parle beaucoup dans cette émission du feedback, faire des retours, faire évoluer aussi. Ça, c'est essentiel. Enfin, chez Rami Soto, comment vous regardez ça?
Alors, en fait, la rétention chez Aramis et l'attractivité d'Aramis, ça passe par l'écoute de nos collaborateurs. On est très à l'écoute de nos collaborateurs, de leur feedback, de la même manière dont on est très à l'écoute de nos clients. On a une entreprise qui est vraiment centrée sur les clients, la satisfaction client.
Comment vous les écoutez? Ça passe par des entretiens, ça passe par des rendez-vous.
Et alors, les managers, oui, leur mission première chez Aramis, c'est d'être à l'écoute de leurs collaborateurs, bien les connaître, bien comprendre quels sont les cailloux qu'ils ont dans leurs chaussures au quotidien, et les aider à se développer. Et on a plein d'outils qui servent à écouter les collaborateurs. Et on a un outil d'écoute collective qu'on a mis en place en 2018 avec le Supermood, qui nous aide énormément aussi à écouter les collaborateurs.
Ça fonctionne comment?
Eh bien, tous les mois, on a une enquête qui est une question qui est posée à nos collaborateurs, une question simple qui est la même depuis 2018.
Ah oui.
Est-ce que vous êtes content de venir travailler chez Aramis?
Donc envoyé par mail.
Envoyé par mail.
Ouais.
Donc que je sois collaborateur dans un centre de reconditionnement au siège.
Et donc c'est pas anonyme.
C'est une enquête anonyme.
Ah, c'est anonyme, d'accord.
On
répond à cette question et ensuite vous, ça vous permet côté RH de prendre la température, de savoir comment
quelle
est l'ambiance.
Ça nous permet de piloter notre satisfaction collaborateur.
Et alors, il y a une bonne satisfaction ou pas? Enfin,
oui.
Comment vous voyez les évolutions?
En fait, vous savez, quand on met en place un outil de pilotage, de la même manière dont on l'avait mis en place pour le pilotage de notre satisfaction client, eh bien, ça nous permet de faire un focus, de mesurer, de mettre en place des rituels collaborateurs. Et de la même manière dont on l'a fait pour notre satisfaction client, eh bien, on a observé, parce qu'on fait ce focus tous les mois, une augmentation très très forte de notre satisfaction client et collaborateur.
C'est positif, une bonne recette. Pour terminer, Julie Perra, est-ce que ce feedback, il permet aussi d'attirer de nouveaux talents, ou est-ce que vraiment l'essentiel, c'est de garder les profils qui sont déjà dans l'entreprise, ou est-ce qu'on se dit, en faisant un bon feedback, avec le bouche à oreille, on va se dire...
L'écoute collaborateur, elle permet avant tout de garder nos collaborateurs, de faire en sorte que nos collaborateurs permettent que nos clients soient contents. Et ça permet aussi beaucoup, avec le bouche à oreille, de montrer à quel point l'entreprise est tournée vers les collaborateurs chez Aramis.
Merci beaucoup pour votre témoignage.
Merci.
Julie Perrard, DRH d'Aramis Auto, dans Happy Boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table.
On va parler du stress. Le stress et l'anxiété qui touchent plus de 9 Français sur 10. Alors, si vous aussi qui nous écoutez, probablement vous êtes concernés. Il y a de fortes chances. On vous apporte des solutions avec nos invités contre le stress, tout du moins au travail. On va parler de santé mentale au boulot aujourd'hui avec Éric Albert. Bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, dirigeant du cabinet YouSide, spécialisé dans la qualité de vie au travail. Avec nous également Alexandre Dana. Bienvenue.
Merci pour l'accueil.
Président fondateur de Live Mentor, organisme de formation pour les créateurs d'entreprises. Vous êtes aussi l'auteur de Entreprendre et surtout être heureux, parce que c'est ça qui est important, hein, au bout du compte.
On va en parler.
Être un entrepreneur, c'est bien, mais il faut aussi que ça amène de la joie. Et également Nicolas Leperc avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Docteur en management, responsable de R&D Ignition Programme, agence d'accompagnement RH. Oui, parce que... le stress au travail. Alors, on va parler des managers avec vous, Alexandre Dana. Mais les managers, peut-être, on va commencer avec ça. Ils sont aussi responsables du stress au travail parfois.
Alors, moi, je suis pas le mieux placé autour de la table pour parler des managers. Moi, je défends surtout
la parole de ceux qui n'ont pas de manager.
Les chefs d'entreprise.
Les créateurs et créatrices d'entreprise. C'est 1 million de personnes l'an dernier qui ont créé leur boîte. La statistique ne cesse d'augmenter d'année en année. Il y a 4 millions de travailleurs indépendants aujourd'hui en France. Et c'est des personnes qui souffrent d'isolement, premièrement, souffrent de perdre le support social qu'offre l'entreprise, le support du manager, alors il fait bien son métier, mais le support des DRH, le support de la machine à café, et c'est surtout cette voie-là dont je peux vous parler.
Mais là, vous parlez de quoi vous...
Juste insister là-dessus, parce que dès qu'on va parler de stress, on va se poser la question de comment on résiste au stress. Et le premier élément de régulation du stress au travail, de très loin, c'est le soutien social. Donc c'est qui est autour de moi et qui va m'apporter à la fois du soutien émotionnel, du soutien informationnel, du soutien concret, qui va faire que j'ai le stress, c'est de l'émotion, hein, c'est un surplus d'émotions que je gère plus ou moins bien, qui peut être très utile. Parce que quand on dit 9 sur 10 sont stressés, ça veut dire que 9 sur 10 sont sous pression. Mais on a tous été... pour être surperformant, on est sous pression. Je crois qu'on a passé un examen.
Est-ce qu'on peut bannir le stress de la vie au travail,
non,
d'ailleurs?
Bien sûr que non. Toute la question est autour. C'est le surstress plus que le stress. Et donc, par rapport à ce que dit Alexandre, c'est vrai que cette question du soutien social et comment mes collègues au premier rang m'aident, puis effectivement mes managers et tout le système de l'entreprise, c'est le premier point. Et c'est un des éléments d'ailleurs qui fait qu'il y a plus de stress depuis qu'il y a du télétravail.
Ah oui, parce qu'on est plus isolé.
Exactement.
Ah ouais. Exactement. Et alors justement, ça me fait penser, parce que vous parlez aussi, des auto-entrepreneurs, Alexandre Danard.
Tout à fait.
Quand on est auto-entrepreneur, ça veut dire qu'on est les profils les plus stressés. On a personne avec qui au quotidien, pas de collègues avec qui échanger.
On a plusieurs raisons d'avoir une santé mentale qui est problématique chez les entrepreneurs. Il y a l'isolement dont je viens de parler, il y a la réalité économique où j'ai une précarité de mes revenus, j'ai pas un salaire qui garantit chaque mois, j'ai des difficultés d'accès au crédit bancaire pour les entrepreneurs. Allez essayer de faire un prêt si vous êtes freelance pour acheter un appartement, vous allez voir que c'est difficile. J'ai une assurance chômage qui est pas du tout au niveau de celle des salariés.
J'ai pas de congé payé, donc il faut que je bosse du lundi au dimanche parfois.
Exactement. Donc c'est ce qui explique pourquoi plein d'études montrent que les entrepreneurs souffrent plus de dépression que les salariés. Et c'est ce qui appelle, selon moi, une révolution à la fois culturelle, mais aussi au niveau du système. Je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais au niveau du système de protection sociale qui a été pensé lors des 30 Glorieuses, à une époque où le salariat était dominant. Mais dans les années qui viennent, environ 50% des Français vont passer à un moment ou un autre de leur vie professionnelle par une phase où ils sont indépendants à leur compte.
Et ça veut dire quoi, repenser tout le système? Il faut tout refaire?
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un choix qui est autour de la liberté, qui est très souvent ce qui décide.
Mais quand on est auto-entrepreneur, on est libre.
On fait ça pour être libre, et on sous-estime toujours le coût de la liberté.
Le revers de la médaille.
La liberté est très coûteuse.
Elle a un prix.
Sans limiter le sujet, simplement
Nicolas Lepert.
À la question des auto-entrepreneurs ou des travailleurs indépendants, 4 millions, mais ça veut dire qu'il y a plus de 20 millions de salariés qui sont concernés par des situations de stress possibles. Je pense qu'il faut faire attention quand même quand on dit 90% des Français sont stressés. Voilà. Ça correspond à des chiffres qui font rêver ou qui font peur ou qui. Mais en réalité, les gens qui sont véritablement dans des situations de stress importants sont des proportions beaucoup moins importantes. Et heureusement.
J'aimerais qu'on aborde quand même le sujet des managers, parce qu'ils sont quand même nombreux à nous écouter dans cette émission et globalement sur BFM Business. Alors, les managers, ils sont stressés. On sait qu'il y a beaucoup de responsabilités qui reposent sur leurs épaules. Mais ils sont aussi véhicules de stress pour les gens qui managent. Souvent, on sait que le management à la française, même s'il s'améliore probablement, est toujours pas excellent.
C'est toujours pareil. Le manager qui est sous pression, la question est comment il gère son émotion. Et vous avez deux types de managers, ceux qui absorbent, à quel coût, c'est tout le coût que ça représente d'absorber, et ceux qui déversent, et souvent d'ailleurs en amplifiant. Donc, ceux qui déversent vont amplifier le stress autour d'eux de façon très, 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 très marquée. Et donc, il faut apprendre aux managers à... Il faut savoir qu'être manager, c'est absorber le stress pour les autres.
Mais vous avez aussi les managers qui ont accepté de l'être, enfin qui voulaient être manager, et d'autres à qui on l'a imposé et qui sont peut-être pas les meilleurs, parce qu'en France souvent le manager c'est la suite logique de l'évolution dans l'entreprise.
Oui, alors on leur a pas imposé, on leur a fait
on leur a fait comprendre qu'il fallait quand même
c'est surtout qu'on a pris des experts et on les a mis à gérer des individus. Et un expert,
de l'humain, quoi. C'est
voilà. Et donc un expert est pas forcément le mieux placé pour gérer des de l'humain et des individus. Mmh. Et donc si vous le formez pas et s'il a pas l'appétence à ça, s'il a pas le goût à travailler sur l'humain, faut rester informaticien.
Complètement. Et pour rebondir justement sur cette question-là, en fait, la question pour le manager, c'est pas simplement de préserver son équipe du stress, c'est de gérer la bonne dose de stress en fonction du collaborateur.
Oui.
Et donc c'est en cela que c'est complexe, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir les mêmes approches, quels que soient les membres de l'équipe.
Bien sûr.
Il faut trouver la bonne dose en fonction du profil. On sait qu'il y a trois sources essentielles qui va générer des risques de stress, des causes personnelles, des causes organisationnelles, le management, les ressources qui sont à disposition et l'environnement. Là où le manager intervient, c'est sur l'aspect organisationnel. Mais ça veut dire que quelqu'un qui est dans une situation de fragilité, il s'agira d'adapter effectivement soit sa tâche, soit l'organisation de son travail, éviter le télétravail s'il se sent trop isolé, lui permettre le télétravail si ça lui permet de gagner la liberté, c'est aussi un choix.
C'est du cas par cas en fait.
Et, voilà, absolument. Voilà. Et c'est ça ce qui est difficile pour le manager, c'est d'arriver justement à faire du sur-mesure.
Et Alexandre certains, il faut au contraire leur monter le stress.
J'ai un mot là-dessus, Alexandre.
Non, mais je rebondis sur ce que disait Eric, je pense qu'il a tout à fait raison de pointer la différence entre être un expert technique d'un métier et devenir expert ou passionné de la connaissance de l'autre et passionné en tant que manager d'aider la personne qu'on manage à mieux se connaître, découvrir ses forces, sa manière de réagir, ses comportements. Moi, le constat que j'ai fait après avoir vu passer 20 000 créateurs et créatrices d'entreprises dans mes formations depuis 2016, c'est qu'on devait mettre l'accent sur la connaissance de soi. Et donc, ce qui m'est apparu, et peut-être d'ailleurs trop tard, c'est que nos formations ne seraient pas suffisamment efficaces si on ne disait pas à nos entrepreneurs apprenants, prenez un moment, non pas pour réfléchir à votre entreprise, son taux de croissance, son modèle économique, ses produits, mais prenez un moment, il y a plein d'outils qui existent pour ça, que mes deux acolytes connaissent bien mieux que moi en plus, il y a plein d'outils qui existent pour apprendre à se connaître, se découvrir, et c'est essentiel de le faire quand on est à son compte puisque personne ne le fera pour soi.
Parce qu'en fait, on ne prend pas forcément de manière innée conscience de dans quel état on va être une fois qu'on aura lancé sa boîte.
Non, absolument pas. Et puis surtout, on sort là de Vivatech où Elon Musk a été reçu. Moi, je pense qu'on pâtit culturellement de modèles toxiques. Quand on met en exergue un Elon Musk qui se vante d'avoir passé Noël dans son usine, qui se vante d'être passé 30 minutes seulement au mariage de son frère pour ensuite reprendre son hélicoptère. On crée cette culture du travail acharné où tout ce qui compte, c'est de croître au lieu d'expliquer qu'il n'y a rien de bobo dans le fait de prendre soin de soi.
Donc Elon Musk, exemple à ne pas prendre.
Pour rebondir là-dessus, les études montrent aujourd'hui que très largement, on a un autre outil qu'on utilise qui s'appelle le baromètre d'alignement professionnel, que la recherche d'équilibre vie pro-vie perso est une des priorités essentielles des collaborateurs aujourd'hui,
qu'ils aient
25 ans
ou qu'ils
aient 55 ou 60 ans. Et donc le modèle Elon Musk, évidemment, est complètement rejeté par une grande partie de la population.
En même temps, il fascine parce que voilà, c'est un personnage,
une personnalité.
Il fascine
un certain nombre de gens, mais je crois qu'il fascine pas tant que ça beaucoup de salariés en vérité.
Non, mais il y a quand même derrière ça, et ce que dit Alexandre, ce mythe du sacrifice et ce mythe du héros. Enfin, c'est à la fois le héros et le sacrifice. Et de fait, les jeunes générations sont beaucoup moins perméables à ça. Et ça, c'est très sain. Et cette notion d'équilibre de vie est absolument fondamentale. Et c'est évidemment un des points fondamentaux pour permettre de résister au stress.
Il nous reste une minute. J'aimerais, Nicolas Lepère, que vous nous parliez, parce que je trouvais ça très intéressant, de ce test burn-out que vous avez rapidement évoqué, mais que vous développez donc avec Ignition. Un test donc qui est mis à la disposition de tous les salariés, c'est ça?
Absolument. Un test en open source.
Oui.
Vous allez sur le site d'Ignition, vous pouvez le faire, ça prend 5 minutes, et vous avez des scores qui vous permettent de savoir à quel endroit vous vous situez. Et on le présente véritablement pour l'ensemble des salariés, mais aussi pour les DRH de boîte, comme un outil de pilotage de son propre niveau de risque de burn-out ou de risque de stress. C'est un modèle qui est innovant puisque il s'appuie sur un questionnaire qui s'appelle le Burnout Assessment Tool, qui a été développé par des chercheurs hollandais en 2020, donc c'est relativement récent, et qui permet de travailler vraiment sur les symptômes, ce qui nous paraît extrêmement important.
Et ça permet de les prévenir, c'est-à-dire de se dire, là on est dans une situation où, avec les réponses que vous nous avez apportées, attention.
Un des premiers problèmes du burn-out, de toute façon en général des situations de maladie mentale liées au travail, c'est le déni. C'est j'arrive, mais non, je vais tenir. Vous me confirmerez. Là, c'est le moyen d'arrêter d'être dans le déni, puisqu'on a des éléments de mesure qui permettent de le pointer et éventuellement de le partager.
Si on a 10 secondes, parce que j'ai un père psychiatre comme Eric, je crois que les outils comme celui que tu viens d'évoquer peuvent être essentiels, mais n'oublions pas la puissance de la relation. Eric en a parlé au début, la relation entre le manager et la personne de l'équipe, ça peut être la relation entre un entrepreneur et un thérapeute, un coach qui lui vient en aide ou un mentor. Mais c'est pour ça que toutes mes formations reposent sur l'accompagnement par un mentor qui est lui-même entrepreneur. Je pense que en complément des outils et des tests, c'est essentiel de revenir à une relation humaine.
Et encourager les acteurs à pouvoir dire qu'ils sont débordés et à demander de l'aide.
Voilà, ça fait partie des solutions. L'accompagnement, ne pas hésiter aussi à en parler. Aujourd'hui, c'est plus du tout tabou, en fait, le stress. On en parle quand même beaucoup plus librement.
Oui, mais on a encore des freins à demander de l'aide.
Bon, eh ben, lâchez les freins. Voilà, ça sera le message de cette émission. Merci beaucoup, Eric Albert, psychiatre, dirigeant du cabinet Youssad, Alexandre Dana, président fondateur de Live Mentor, Nicolas Leperc, responsable RH d'Ignition Programme. Avec
merci.
Nous.
BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Le Labo RH.
Je vous l'avais promis en début d'émission, j'avoue que j'avais hâte que ce moment arrive parce que je suis très curieux. Pouvoir choisir votre salaire après 3 ans d'ancienneté dans votre entreprise, c'est peut-être pas encore possible là où vous travaillez, malheureusement, mais ça existe dans l'entreprise Lucas. Bonjour Charles de Fremerville.
Bonjour Erwan.
Merci d'être là, vous êtes le DRH donc de Lucas, un éditeur de logiciels RH. Et c'est vous qui êtes à l'initiative là de cette idée ?
Ah, j'aimerais bien, mais même pas.
Vous. Non.
Même pas. Mais c'est un rituel qui date. Lucas est une vieille start-up parce qu'on a 21 ans d'existence. Et ce rituel, il date depuis bien avant ma vie. Je crois que ça fait plus d'une dizaine d'années. Et effectivement, il permet aux collaborateurs de plus de 3 ans d'ancienneté de fixer eux-mêmes leur salaire.
Mais attendez, c'est incroyable. Il faut nous en dire quand même un peu plus. Comment ça se passe ? Est-ce que vraiment tout le monde y a droit ?
Ouais.
Et puis surtout, est-ce qu'on obtient gain de cause quand on passe, je sais pas, devant le jury pour dire, bah moi j'ai mérité tant ? Est-ce que ça fonctionne ? Enfin, racontez-nous.
Alors oui, ça fonctionne. Alors il y a quand même quelques préalables qui rendent ce dispositif possible. D'une part, on a une transparence totale des salaires chez Lucas. C'est-à-dire que n'importe quel collaborateur, en deux clics, d'ailleurs via le logiciel Lucas, peut voir le salaire de n'importe qui dans l'entreprise.
Ok.
On peut également voir la grille de salaire qu'on a conçue pour les collaborateurs. Et si un collaborateur donc de plus de 3 ans d'ancienneté dit, eh ben moi, en ce moment, je fais un rôle qui est peut-être à mi-chemin entre... De job, mais la grille ne reflète pas exactement ma valeur de marché, il a le droit de dire, eh bien voilà, moi je souhaite solliciter et aller à ce comité des plus de 3 ans.
Ouais. Donc, comité, c'est comme un jury en fait.
Exactement. Hein, ouais. Donc d'abord, il formule une demande écrite et ensuite il va arriver dans ce comité dans lequel tous les collaborateurs depuis 3 ans sont invités.
Ouais.
Lui-même pourra exposer sa demande et dire, pour telle et telle raison, il peut y avoir des raisons variées liées à son activité, à son parcours, à ce qu'il a apporté, et il va plaider sa cause. Et donc en face de lui, il y aura des collaborateurs qui vont éventuellement un petit peu le challenger. Moi-même, en tant que DRH,
j'imagine bien. Ok, tout de suite.
Exactement. Pour tester un petit peu. Et donc, c'est un débat d'argumentaire. Et parfois, on entend des vrais arguments de la part des collaborateurs. Parfois, on a aussi des arguments opposés. Et à la fin, eh bien, les collaborateurs qui sont là ont le dernier mot. Et ça, c'est un principe qui est essentiel. C'est-à-dire que s'ils disent, nous, on veut, je sais pas, la grille dit 100, moi, je veux 110. Eh bien, s'il dit non, mais je maintiens les 110 malgré les protestations que j'ai pu entendre, il aura 110. Quoi qu'il se passe.
Mais celui qui passe devant le jury, là, il peut pas les soudoyer une ou deux semaines avant en disant
incorruptible, nous sommes incorruptibles.
Tu payes un verre et puis tu votes en faveur.
Non, mais pour le vrai, en fait, on part du principe. Pourquoi on fait ça ? Déjà, on part du principe que les collaborateurs de Lucas, ils sont intéressés au bien de la société, ils arrivent à avoir un peu de recul sur la valeur qu'ils apportent à la société, donc on leur fait confiance. Néanmoins, dans la vie, il y a toujours des arguments pour et contre. Et ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, parmi toutes les demandes qu'on a reçues cette année, donc là, on en a reçu près d'une dizaine, on a plus de 100 collaborateurs qui ont plus de 3 ans d'ancienneté, et parmi les demandes qu'on a eues, eh bien, tous ont obtenu une augmentation supérieure à la grille, des augmentations de plus de 2 000 euros à chaque fois. Et effectivement, pour certains d'entre eux, ils avaient parfois demandé, X de plus, et ben, ils ont peut-être eu un petit peu moins, parce qu'ils ont entendu effectivement les arguments qu'il pouvait y avoir en face. Et donc, à nouveau, grâce à cet esprit du débat qui nous anime, à la fois dans notre conception interne logicielle, mais à la fois aussi dans ce rituel des comités des plus de 3 ans, et bien on arrive parfois à trouver des compromis qui sont porteurs de sens.
2000 euros annuels, hein.
2000 euros annuels.
Oui, bah, d'accord. Sinon, c'est le minimum. J'étais prêt à postuler, là. Je pensais que c'était par mois.
vous avez dit donc une centaine de collaborateurs éligibles, donc en plus de 3 ans d'ancienneté, ouais. Une dizaine qui postulent en fait.
Exactement.
Et pourquoi les autres ils postulent pas?
Ben puisqu'ils sont déjà bien payés.
Ah, oui, non, aujourd'hui on a une grille donc qui est au niveau du marché, qui permet de bien rémunérer nos talents. Et donc c'est ceux qui effectivement pour des cas très spécifiques souhaitent ou ressentent le besoin de faire cette demande qu'ils le font.
D'où elle vient l'idée? Parce que vous dites que c'est pas nouveau en fait, c'est dans l'ADN de ouais. votre entreprise.
Alors il n'y avait pas de grille chez Lucas. Donc pour le coup, les salaires étaient entre guillemets plus évanescents. Il n'y avait pas de point de référentiel. Et à ce moment-là, on demandait à chacun de déterminer son salaire par lui-même, parce qu'il n'y avait pas de point de référence. Donc chaque année, toutes les personnes de plus de 3 ans d'ancienneté devaient dire, ben voilà, moi je pense que je vaux X, j'ai volé Y l'année dernière, maintenant je vaux X.
Et alors ça marche, enfin, qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Parce que peut-être que ceux qui nous écoutent vont se dire, bah, pourquoi pas tester, mais au fond, qu'est-ce que ça amène?
Ouais. Alors moi je pense que aujourd'hui, quand on est, on va dire, RH d'entreprise, on essaie parfois de faire rentrer des carrés dans des ronds. Et ça marche pas. On a une grille de salaire, on dit, mais ça colle pas, il y a quelqu'un qui fait quelque chose d'autre ou c'est spécifique. Là, on laisse de la place déjà pour les cas particuliers. Et c'est important, nous, on est une start-up en pleine croissance, donc on édite des logiciels qui nous permettent d'avoir 6000 clients, on fait 50% de croissance chaque année, on recrute 250 personnes. Il faut pas qu'on rigidifie tout en réduisant, voilà, chacun de nos collaborateurs à une rémunération, une et unique. Et là, on leur fait confiance pour dire, bah, si vous êtes un cas particulier, eh bien, très bien, expliquez-nous pourquoi et on vous fait confiance pour trancher.
Et donc, c'est une initiative qui est aussi satisfait vos collaborateurs.
Oui, on a fait pour le coup, comme à chaque fois, on a fait un débrief de cet atelier. Bien sûr, certains nous disent, waouh, quand je me demande, quand même, je me suis bien challengé, c'est pas évident. Ouais, ouais, ouais. Mais au global, les retours sont positifs des collaborateurs qui participent ou qui demandent.
Merci Charles de Frémainville d'être venu nous présenter cette innovation chez Lucas, DRH de Lucas dans le Labo RH. Voilà, c'est tout pour Happy Boulot cette semaine. Vous retrouvez cette émission bien sûr comme toujours en replay, en podcast. Et puis si un sujet vous intéresse, vous n'hésitez pas à nous écrire. Vous mettez Happy Boulot dans l'objet et vous envoyez ça avec vous @bfmbusiness.fr. On se retrouve le week-end prochain. D'ici là, on vous souhaite d'être le plus heureux possible au boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.